le futur cette fois, puisque vous allez vous demander comment mettre fin à une guerre, et on évoque évidemment la guerre en Ukraine, comment l'arrêter. La question paraît impossible à répondre, Pierre, à moins d'être Madame Soleil, d'avoir une boule de cristal.
Et vous avez vu, je ne le suis pas vraiment, alors je vais rester fidèle à ce que je sais plus ou moins faire, me plonger dans le passé pour enrichir le présent avec cette question, François. On est parti pour une semaine raccourcie, ça ne vous a pas échappé, une semaine de 4 jours, vous l'avez noté ?
Oui, bien sûr, le 11 novembre, vendredi, qui est donc un jour férié, puisqu'on célèbre l'armistice.
Eh oui, la fin de la guerre 14-18, on a tous appris ça à l'école. Mais savez-vous que cette terrible guerre, à ce point meurtrière qu'elle a poussé chaque ville ou village à se doter d'un monument aux morts pour inscrire le nom de ceux qui sont morts au combat, eh bien cette guerre aurait pu être un peu moins meurtrière, elle aurait pu s'achever un an plus tôt. On parlerait donc aujourd'hui de la guerre 14-17. Et si cela ne s'est pas fait, c'est parce que chez les différents belligérants, on a préféré écouter les va-t-en-guerre, les jusqu'au-boutistes, les défenseurs, vu les sacrifices déjà consentis de la victoire totale, plutôt que d'écouter ceux qui évoquaient l'idée d'une paix de compromis pour mettre fin à cette effroyable boucherie.
Alors, pour bien comprendre, Pierre, qui voulait faire la paix en 1917 et comment l'occasion a-t-elle été manquée ?
Alors, d'abord le contexte. 1917, l'épuisement et le découragement gagnent les tranchées. Aux soldats mobilisés d'août 14, on annonçait une guerre courte. Les Français se voyaient à Berlin pour la Noël. Les Allemands s'imaginaient à Paris plus vite encore. 3 ans plus tard, les voilà qui croupissent dans les tranchées, qui meurent sous les obus ennemis et chaque offensive qu'on leur présente comme définitive échoue lamentablement après de terribles pertes. En 1917, il y a des mutineries au sein de l'armée française. Chez l'armée russe, c'est carrément la révolution. Et ça ne va guère mieux. Dans l'autre camp, à cause du blocus maritime des Anglais, la faim gagne la population allemande et les désertions se multiplient dans l'armée austro-hongroise. Je réponds donc à votre question. C'est d'Autriche-Hongrie que va venir la volonté d'arrêter la guerre. L'archiduc François-Joseph, celui qui a déclenché la guerre en attaquant la Serbie, décède en 1916. Et son successeur, Charles Ier, c'est son pays à bout de souffle. Sans en avertir son allié allemand, pardon, l'empereur d'Autriche-Hongrie décide de sonder les alliés pour envisager la paix. Et pour ce faire, il passe, figurez-vous, par 2 sous-officiers de l'armée belge.
Oui, en l'occurrence, ses beaux-frères, hein, Sixte et François-Xavier de Bourbon-Parme, qui sont aussi les cousins d'Elisabeth, reine des Belges, et qui ont choisi de s'engager dans l'armée belge. Ils reçoivent une lettre de leur mère leur demandant de se rendre en Suisse.
Voilà donc les princes de Bourbon-Parme devenus messagers des pourparlers de paix. Fin mars 1917, les choses paraissent bien engagées. L'empereur reçoit en personne à Vienne les princes munis des conditions préalables émises par la France, restitution de l'Alsace-Lorraine, restauration de l'indépendance de la Belgique et de la Serbie. « C'est oui, » répond l'empereur. « Oui, aux 3 conditions. Il veut la paix à tout prix. » À Paris, le président et le premier ministre sont impressionnés. Il y a une chance à saisir, mais cet enthousiasme va être de courte durée.
Et oui, parce que des deux côtés, il faut mettre au courant ses alliés. L'Angleterre et l'Italie pour la France et l'Allemagne pour l'Autriche.
Oui. Pas de souci pour les Britanniques, entièrement d'accord pour faire la paix dès lors que l'Allemagne évacuerait la Belgique. Mais pour l'Italie, c'est une autre affaire. Elle est entrée en guerre pour gagner des territoires autrichiens, Trentin, Trieste, la côte adriatique. Les dirigeants italiens vont donc faire entendre une petite musique. Attention, cette proposition autrichienne, c'est un piège pour diviser les alliés. Côté allemand, c'est la même chanson. D'autant qu'on n'est pas prêt à céder l'Alsace-Lorraine, ni toute la Belgique, on veut au minimum garder Liège. Mais l'empereur d'Autriche s'acharne. Il est prêt à faire la paix seul et à lâcher son allié allemand. Le 9 mai 1917, il remet donc au prince de Bourbon-Parme une dernière proposition. Pour satisfaire l'Italie, il évacuera les territoires italianophones, c'est-à-dire la région du Trentin. Et si on lui garantit ses nouvelles frontières, il signera la paix séparée. Autrement dit, l'Allemagne perdait son principal allié. Ce n'est pas rien.
Et comme la guerre a continué jusqu'en novembre 1918 avec l'Autriche aux côtés de l'Allemagne, j'imagine que la réponse a été négative.
Eh bien non, François, c'est pire, si j'ose dire. Il n'y aura jamais de réponse à l'offre de celui qui, il ne le sait pas encore, sera le dernier empereur des Habsbourg de Vienne. Pas de réponse pourquoi ? Eh bien, parce qu'à Londres et surtout à Paris, on est en train de perdre l'allié russe en pleine révolution et on a trop peur de perdre l'allié italien si on négociait la paix avec Vienne. Autrement dit, en 1917, continuer la guerre paraîtra moins risqué que de négocier la paix. Résultat, des centaines de milliers de jeunes soldats des deux camps continueront de mourir pour nourrir des orgueils nationaux. Alors, 100 ans plus tard, ce rappel sonne comme un avertissement avec cette guerre entre Russie et Ukraine. Là aussi, un jour, il faudra bien parvenir à négocier pour y mettre fin. L'occasion manquée de 1917 rappelle que pour faire la paix, Il faut deux choses. D'abord, il y a besoin de le vouloir. Il faut être deux à le vouloir. Et il faut aussi un minimum de confiance. C'est tout, sauf simple.
Et il faut parvenir à convaincre tous ses alliés aussi, ce qui complique un peu les choses. Merci beaucoup pour